2050.
Tu penses que ce serait bien, toi?
Hashtag 2050 le podcast, c'est votre rendez-vous. Chaque semaine, une rencontre, un regard, une vision tournée vers l'avenir. En plus de 20 minutes, mais en moins de 30, c'est 2050 qui se dessine au fil d'une discussion. Hashtag 2050, c'est parti.
C'est ça, le potagiste. Alors, le potagiste, c'est un paysagiste qui s'est intéressé au potager. Mmh. Voilà, tout simplement. On a mélangé les deux, ça donne le potagiste. Et donc, c'est un paysagiste qui se rend compte qu'aujourd'hui, il y a nécessité à donner des nouvelles vertus au paysage, notamment la vertu productive, celle de laisser aux gens la possibilité de pouvoir produire leurs légumes, même des fleurs à couper, tout simplement, ou d'enseigner à leurs enfants ce que c'est que la terre. Sur les espaces paysagers, en fait. Et donc, tout naturellement, on est passé du paysagiste au potagiste pour essayer de transformer les espaces verts en espaces vertueux.
Voilà. D'accord. Alors, le potagiste, c'est une association aussi.
Oui.
Et donc, la vocation de cette association, c'est justement d'accompagner des structures, des citoyens qui s'interrogent sur justement la place de la fonctionnalité de la terre autour d'eux.
C'est ça. Donc il y a plusieurs secteurs en fait d'intervention, celui des particuliers qui ont un jardin, un petit jardin, qui souhaitent faire du potager ou pas. C'est pas forcément que le potager, ça peut aussi être le jardin d'ornement tout simplement, mm-hmm. ou la mise en place d'un poulailler, que sais-je. Et donc ça c'est pour les jardins de particuliers. Et il y a une autre domaine d'intervention, c'est plutôt l'espace public partagé. Donc à ce titre, on travaille surtout avec soit des élus. Soit des bailleurs sociaux, par exemple, ou des lotisseurs, des ensembliers urbains, ce qui va permettre, dans un lotissement ou dans des logements sociaux, de venir redonner une fonction aux espaces qu'il y a entre les bâtiments, entre les maisons.
Mmh. Alors, ici, donc, vous accueillez aussi du public dans ce lieu, la paysagerie. Tu peux nous décrire un peu ce qu'on peut trouver comme espace ici, à la paysagerie?
Oui, alors la paysagerie, c'est né d'une volonté d'ouvrir le paysage au plus grand nombre. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des bureaux d'études qui faisaient le paysage, on a des pépiniéristes qui vendent des plantes, on a des paysagistes qui interviennent dans les jardins particuliers. Le but, c'est d'essayer de regrouper tout le monde dans un lieu où tout le monde peut intervenir et présenter ça au plus grand public. Quand on est à la paysagerie, on a un panorama un peu de tout ce qui peut se voir dans le paysage. Enfin, c'est très humble, hein, il n'y a pas non plus tout ce qu'on peut voir en France, mais rapidement, il y a quand même plusieurs thématiques. L'urbanisation croissante avec l'arrivée d'un lotissement très proche de nous, la gestion des eaux avec un bassin tampon qui sert à maîtriser les eaux du lotissement, l'agriculture industrielle intensive juste derrière nous avec les champs de lin, patates, colza, mon potager qui se fait en agroécologie, donc qui permet de voir un peu cette thématique là, l'importance du sol, les interventions, les interactions avec les voisins, donc comment gérer une lisière, une haie, le rapport au paysage avec les voisins. Voilà, donc des thématiques un peu très courantes finalement, hein, rien d'extraordinaire, mais qui ne sont pas faciles à gérer pour tout le monde, surtout quand on n'a pas l'habitude de les gérer. Quoi.
Mmh. Alors j'aimerais qu'on revienne à un mot important, c'est celui du paysage. Mmh. Qu'est-ce que c'est un paysage? Parce que tout de suite, quand on entend ce mot, on pense à la carte postale, à la montagne, la mer, le grand lac.
Ouais.
Et c'est quoi un paysage?
C'est vrai qu'on a souvent cette idée-là du paysage. Dire, bah, c'est un beau paysage, c'est une photo, c'est ça, c'est la montagne, c'est la mer. Le paysage, c'est ce qui nous accompagne tous les jours, en fait. On peut avoir un paysage à la ville, on a à la campagne, on a à la montagne. Le paysage, il est né même de notre conscience à regarder les choses. C'est-à-dire que si on n'était pas là pour regarder, bah, la terre, elle serait là quand même, il n'y a pas de problème. Mais ce ne serait pas un paysage, parce qu'on ne le regarderait pas de la même manière. C'est notre regard qui fait qu'il y a un paysage. Et à ce titre, c'est important d'aller gérer les jardins un par un, parce que les jardins sont au paysage que les feuilles sont au feuillage d'un arbre. Chaque jardin va venir créer le paysage dans sa totalité. Un paysage, on l'a dans sa fenêtre quand on est au boulot, quand on est chez soi. C'est le jardin qu'on va créer, c'est les gens qui vont passer devant.
Ouais. Voilà. Et un paysage, finalement, c'est une notion extrêmement subjective. parce que on peut, vu qu'il est le fruit d'un regard, on peut aimer un paysage naturel, on peut aussi aimer un paysage industriel.
Oui. Ah oui, 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 il y a des paysages industriels, après on va plus loin aussi, hein. Il y a les paysages sonores, les paysages sociaux, les paysages politiques, donc c'est un mot c'est vrai, qui peut se décliner sous mille façons, mais oui c'est ça, un paysage industriel c'est un paysage, et on peut le trouver très beau. On va quelque part en Chine, dans les cités industrielles, minières, etc., on peut trouver ça magnifique. C'est vrai que des fois c'est surprenant, on voit une carrière de vieilles voitures qui s'étend sur des kilomètres carrés. Écologiquement parlant, c'est un désastre, socialement parlant aussi, mais on peut trouver ça beau en photo, finalement. Mmh. Donc un paysage, c'est pas que quelque chose de beau, au contraire. Ouais. Hein, ça peut être,
Qui interpelle, qui questionne notre rapport à notre environnement.
C'est ça, voilà, c'est notre environnement direct, visuel. Voilà.
Alors, tu avais envie qu'on parle de ruralité, justement, du paysage, de la ruralité, de l'avenir de la ruralité à l'horizon 2050. Ouais. Ici, juste derrière, tu l'évoquais tout à l'heure, on a fait le tour de la paysagerie et on voit un lotissement, des maisons individuelles entourées de leur jardin qui doit faire à peu près 1000 mètres carrés, quelque chose comme ça, qui se rapproche. C'est quoi l'avenir de la ruralité ?
Alors, difficile de répondre comme ça tout de suite à ce qu'est l'avenir de la ruralité. Je peux déjà en dresser un peu le constat actuel. Il y a une grande partie de la ruralité française qui est catastrophique, hein. On a cette fameuse diagonale du vide dont on parle souvent en France, c'est-à-dire que déjà on a une ruralité qui se vide, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de... Donc déjà bon, ça fait qu'il y a de moins en moins de monde, et donc le paysage au fur et à mesure redevient très naturel dans certains endroits, et forcément à l'inverse, ça veut dire que les gens s'ils quittent un endroit, ils vont dans un autre, et là on va avoir des espaces qui se reminéralisent de manière très importante. Rouen est une ville très attractive, je parle de Rouen parce qu'on n'est pas très loin, et là nous sommes à la paysagerie effectivement, donc on est sur la ligne directement Paris, Le Havre, Rouen, donc on a beaucoup de lotissements qui se construisent forcément, avec cet accès au train, à l'autoroute, donc on a une ruralité qui se minéralise énormément, mais de manière comme une sorte de patchwork, mais pas très bien géré. Ce qu'on remarque la plupart du temps, dans tous les cas, c'est que la ruralité est séparée de l'urbanité. Donc, on a d'un côté un peu les urbains et de l'autre les ruraux. Ouais. C'est un peu
caricatural, mais... catégorie, les néo-ruraux, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure.
On parlera peut-être des néo-ruraux, mais pour le moment, ils sont encore peu quand même. Ouais. Donc, c'est un sujet à aborder qui est très important. Je pense que justement, ce sera l'avenir. Ouais. Mais pour le moment, on a toujours encore ce clivage entre les urbains et les ruraux. Et ce clivage, il se sent même dans les idées, dans la façon de voir les choses, et c'est même un problème politique. C'est-à-dire que dans la ruralité, voilà, faut pas se mentir, on a aussi énormément de votes pour des partis politiques auxquels on n'adhère pas forcément souvent.
Et ça crée des votes extrêmes.
Voilà, c'est ça. Et ça crée des clivages. C'est-à-dire que les gens de la ville se disent, eux, ils votent beaucoup FN, et donc il y a tout de suite une exclusion un peu des gens de la ruralité. Et les ruraux aussi s'excluent un peu, on dit de toute façon, les gens de la ville, je sais pas, c'est des bobos, etc. Je pense qu'il va falloir vraiment avoir des liens entre les deux qui se créent pour éviter ça à l'avenir. Il s'est passé la même chose à plus grande échelle. Aux États-Unis, on a les gens à Washington, à New York, on dit nous, on est les progressistes, on a voté Hillary Clinton, et puis il y a tous les bouseux des autres États qui ont voté Trump. Mais justement, le problème, il vient des bouseux, comme il les appelle, ou il vient d'eux qui n'ont pas su tendre la main, en fait, là-bas. À plus petite échelle, forcément, on a la même chose, je pense, entre l'urbanité et la ruralité, avec des gens qui ne se côtoient plus, qui ne se parlent plus, et du coup, il y a des mésententes qui se créent, et au fur et à mesure, il n'y a pas de cohérence, en fait. C'est très dommage.
Et puis, il y a aussi cette ruralité qui peut être de plus en plus subie. Je pense notamment aux politiques, parce que tu le disais, la ruralité, c'est aussi un fait politique, et... la ville qui ne sait plus accueillir de nouveaux habitants parce que le foncier est exorbitant en termes de prix, les ruraux qui sont complètement dépendants de leur véhicule avec des prix d'entretien, d'essence, etc. Donc cette ruralité peut aussi être subie, donc être un poids.
Oui, la ruralité, c'est une sacrée question. C'est vrai que... On a des... Pour les jeunes, par exemple, ça ne va pas les conditionner de la même façon sur leur avenir. Moi, je suis né à la campagne, la première chose que je me suis dit, enfin, une des premières choses, bon, si je veux être libre, il me faut une voiture. Quoi. À Paris, je connais très peu de jeunes qui me disent, il me faut une voiture. Enfin, ça n'existe quasiment pas, ça ne leur sert à rien. Donc c'est pas grave, hein, il faut tout pour faire un monde, donc c'est bien aussi d'avoir des voitures, je suis très content d'avoir la mienne. Ce que je veux dire, c'est que ça va forcément guider les gens vers des choix qui actuellement ne sont pas forcément très bons. Les gens effectivement ont subi la ruralité et ça nous amène à faire des choix qui sont pas forcément les bons, très judicieux. Ouais. Notamment ce problème des transports, ouais, qui est assez important.
Alors justement, l'avenir de cette ruralité, on en a dressé à gros traits le paysage de cette ruralité aujourd'hui en 2016. Et quand on porte le regard vers 2050, qu'est-ce que tu entrevois?
Alors ce que j'entrevois du coup pour 2050, c'est une nouvelle façon d'entrevoir la campagne. Plutôt comme un lieu où on pourrait faire la même chose qu'en ville, mais dans des espaces plus grands, moins chers, plus naturels. Ce que je veux expliquer, c'est qu'on a une offre qui s'est développée en ville à une certaine époque, qui était très importante. Le travail, les voies de communication, la technologie en général, l'innovation, la modernité. En fait, aujourd'hui, on peut avoir accès à tout ça à la campagne. Il ne s'agit pas de revenir en arrière en étant à la campagne. On peut avoir le Wi-Fi en habitant la campagne. On peut avoir des voitures qui marchent très bien. On peut avoir du travail. Les gens savent travailler même maintenant que sur ordinateur. Donc, il pourrait même y avoir des espaces de coworking. Donc, ce que je vois en 2050, c'est un peu ce qu'on essaye de créer ici à la paysagerie. C'est un relais paysage. C'est-à-dire qu'on peut faire les mêmes choses un peu qu'à la ville, pas tout. Tout en habitant dans des endroits un peu plus reculés où on a de l'espace pour vivre, quoi. On n'est pas dans le. C'est pas très intense au niveau des terrains. On a de la marge, on a de l'espace, on peut se sentir mieux, quoi. Ouais. Je pense que l'avenir, c'est ça. C'est des gens qui reprennent un peu possession de la terre, qui s'écartent des villes, tout en continuant à avoir accès à la modernité.
Et donc, après des années d'exode rural, est-ce qu'on irait vers un exode urbain, comme tu as dit, là, un retour à la terre?
Alors, je ne sais pas si on va y aller, mais moi, c'est mon souhait. Mm-hmm. Et je pense que c'est le souhait de déjà pas mal de personnes. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, les néo-ruraux, c'est ça. Il y a des gens qui s'en rendent compte, qui se disent on a été trop loin, trop loin ou pas. Il y a des gens à qui s'appelait la ville, donc il n'y a pas de souci. Mais récemment, là, on a eu les pics de pollution. On se dit que ben, c'est quand même dommage de vivre dans un pic de pollution alors qu'on peut juste se reculer un petit peu. Et en 20 minutes de train, on vit au parc où il y a plus d'espace, moins de pollution. Bon, il y a une autre pollution, hein. Il y a celle pour le moment des champs arrosés aux pesticides. Mais ça va évoluer aussi d'ici 2050.
En 2050, ça va se régler.
En 2050, il n'y en a plus du tout, ça.
Très bien, bon point pour 2050. Ouais. Et en même temps, exode urbain plus important, des gens qui s'extraient de l'urbanité pour se réapproprier les espaces ruraux, c'est aussi un risque pour la ruralité, pour l'agriculture, de voir des gens, parce que souvent quand on quitte la ville, ben, peut-être que le lotissement qu'il y a juste derrière, ce sont peut-être des anciens urbains qui ont voulu avoir leur pavillon, leur terrain, et si on multiplie l'ampleur de ce phénomène de retour à la campagne, l'espace rural, il y a de l'espace, mais il peut aussi vite s'épuiser et miter le paysage.
C'est ça. Donc là, il faudrait du coup, si on a des gens qui reviennent à la campagne, comme ça se fait, il faut éviter qu'en 2050, il ne faut pas que ce soit sous le même format qu'actuellement, avec des lotissements où bon, les gens ont 600 mètres carrés de terrain, même pas, des maisons... il y a des maisons qui ressemblent pas forcément à grand chose, mais ça c'est mon...
ça aussi, c'est très subjectif.
Ça c'est très 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 subjectif, hein. Ça devrait être coupé, ça. Mais bon, et ce que je veux dire par là, c'est que peut-être on créera d'autres façons de vivre à la campagne, comme par exemple une sorte de, pas d'immeuble, mais de logements partagés, comme des micro-bourgs en fait, de gens qui pourront partager ce fameux wifi ou ce parking, etc. Comme des immeubles actuellement, enfin des maisons jumelées qu'il y a proche de la ville, et finalement à la campagne.
Donc ça serait un peu les éco-quartiers qu'on voit un peu sortir de terre en ville qui pourraient trouver leur pertinence à la campagne.
C'est exactement ça. Les éco-quartiers de la ville, pourquoi les laisser qu'en ville? Alors finalement, on pourrait juste les reculer. Mm-hmm. Ça coûterait moins cher au niveau du foncier. Ce serait encore plus agréable à vivre, je pense. Et on crée des moyens de locomotion qui sont adaptés. Mais juste le train, en fait, bon, il y a beaucoup de retard, beaucoup de problèmes. Finalement, c'est quand même un transport qui, l'un dans l'autre, marche quand même relativement bien. Ça roule, on arrive normalement là où il faut. Mais on a d'autres exemples, je crois que c'est à Dubaï où ils ont créé l'Hyperloop. Bon, c'est une sorte de. Un peu comme les monorails qui avaient été construits aux États-Unis pendant un temps. C'est une sorte de tube dans lequel il y a une sorte de métro qui est injecté à toute vitesse. Ils font 120 bornes en 10 minutes, enfin peut-être 20. Quoi. Bon, je ne dis pas que l'avenir c'est l'hyperloop, mais c'est ça, c'est des moyens de transport qui iront rapidement de la ville jusqu'à d'autres cellules, en fait, comme des nodosités un petit peu différentes qui accueilleront ces fameux écoquartiers à la campagne. Et les gens auront plus de terrain, plus de liberté pour créer. Les gosses pourront courir, jouer, j'en sais rien. Ça fait un peu rêver, quoi, dans l'idée, pour moi.
Alors moi, je cherche la petite bête.
Oui, bien sûr.
Vu que tu évoques des moyens de transport qui connectent cette future nouvelle ruralité aux villes, une des questions qu'on pose beaucoup aujourd'hui en France, c'est on veut construire des lignes de TGV qui traversent rapidement de grands espaces, mais que ça aussi, ça contribue à couper la ruralité des espaces urbains, parce que le besoin de déplacement, il est peut-être en fait de ces différents pôles ruraux, et pas uniquement tout concentré vers une grande centralité qui serait la grande ville. Donc c'est toute une recomposition de l'aménagement du territoire, finalement.
Oui, alors là, je ne vais pas avoir toutes les réponses d'un coup pour savoir comment on va faire pour passer du TGV aux autres, mais effectivement, ça va encore être une complication supplémentaire. Quand on rajoute des axes, que ce soit des routes, des lignes de chemin de fer, un aéroport, que ce soit, on minéralise un espace, on coupe une forêt en deux, et puis on empêche les espèces d'aller l'une vers l'autre. Bon, c'est certain. Mais après, il faut quand même trouver les moyens pour les gens d'aller d'un endroit à un autre. Je ne sais pas, peut-être que d'ici là, on aura trouvé des moyens un peu plus responsables d'aller d'un endroit à un autre.
Ouais,
j'ai pas la réponse comme ça.
Autre sujet que tu as abordé, c'est dans ces écoquartiers qui s'installeraient dans les espaces ruraux, il y aurait un wifi partagé, des espaces partagés qui soient collectifs. Est-ce qu'on peut se dire qu'en 2050, ça sera possible quand on voit qu'aujourd'hui, la ruralité, j'y reviens, assez néo-ruraux, il y a aussi une volonté. Voilà, je quitte la ville où il y a beaucoup de monde, dans mon immeuble, je croise tout le temps mes voisins du dessus, du dessous, qui font du bruit, je veux être tranquille chez moi. On voit beaucoup de lotissements avec des haies immenses, où finalement on s'enferme dans une individualité, un petit cocon familial. Ouais. Est-ce qu'en 2050, tu penses que cette culture du partage, du collectif aura pris le dessus pour faire vivre justement cette ruralité comme tu l'as décrit ?
Eh ben, je l'espère, en tout cas il va falloir créer des lieux et en faire des sortes de lieux de démonstration pour montrer que c'est possible. Quand les gens sont à la ville, justement, c'est ce qu'ils aiment, c'est le lien avec les autres. Alors, il y a ceux qui, justement, ne supportent plus et puis vont se créer leur maison entourée de haies qui font 4 mètres de haut pour être sûr pour être sûr de ne plus avoir accès aux voisins. C'est très court-termiste, c'est-à-dire qu'après, on se retrouve avec des gens qui sont isolés. Malheureusement, bon, il y a toujours des décès dans une famille, je parle pas, c'est catastrophique, mais bon, il se passe des choses comme ça, ou des divorces, même, ça, c'est mieux, on va dire. Mais on se retrouve avec des gens qui sont seuls, finalement. Ouais. Donc, les quartiers, on entend beaucoup parler de quartiers intergénérationnels, des choses comme ça. Et à chaque fois, c'est l'urbanité, c'est la ville qui vient en reparler. C'est dommage, il faut les créer à la campagne, ces lieux-là, les lieux intergénérationnels. On a des gens âgés qui vivent à la campagne, et je suis sûr qu'ils seraient ravis de pouvoir partager un espace, sans que ce soit un vrai immeuble, mais ça peut être des maisons juste très proches, et éviter de les séparer par des tuyas, quoi. Et mettre en commun certaines pièces ou je sais pas, certaines fonctions. Voilà.
Alors, toi, les personnes que tu rencontres ici à la paysagerie ou avec l'association Le Potagiste, est-ce que tu sens que ce que tu décris, qu'il y a une appétence pour ces idées-là, cette nouvelle vision, elle est partagée par de plus en plus de personnes ?
Alors, oui, moi je le vois. Mais forcément, vu que je suis dans le domaine, en fait, je suis amené à rencontrer d'autres personnes comme moi. Donc ça favorise pas forcément l'ouverture d'esprit, mais c'est-à-dire que oui, vu que j'en fais partie, la plupart des gens avec qui je parle, que je rencontre par le biais d'ateliers ou quoi que ce soit, forcément, c'est des gens qui vont partager plus ou moins des idées en commun avec moi.
Donc, tu dois avoir des profils assez différents qui se tournent vers ces questions-là.
Il y a des profils très différents. Ça va des gens qui sont en pleine ville, aux gens qui étaient déjà dans la campagne mais qui veulent y aller encore plus, ou sous une manière différente finalement. C'est plein de profils différents. Et puis ça peut être des étrangers, ça peut être des Français, Il y a vraiment plein de gens différents qui viennent à cette aspiration. Mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Moi, j'en vois beaucoup parce que on s'attire les uns les autres, mm-hmm. qu'on a les mêmes idées.
Ouais.
Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça pour le moment. Je pense que par contre, en le faisant découvrir, en emmenant les gens dans des lieux comme ça, peut-être qu'ils pourraient prendre conscience que oui, il y a autre chose qui est possible.
Mmh. Ouais. Et puis dans ton travail aussi du quotidien, tu m'expliquais que tu travaillais parfois avec des bailleurs sociaux pour redonner des fonctionnalités à des espaces verts qui redeviennent potagers, ou tu disais avec des fleurs à couper, etc. Dans cet horizon 2050, il y a cette ruralité que tu as décrit, mais il y a aussi la ville qui pourrait aussi changer de visage et réintégrer des fonctions rurales dans cet espace urbain.
Oui, alors c'est vrai que c'est ce qu'on est en train de faire avec l'association Potagis, donc remettre un peu de la nature en ville. Je pense que c'est très intéressant et important de le faire, parce qu'une ville qui a de la nature, en fait, c'est très important au niveau pédagogique, aussi de la pollution, mais c'est surtout sur la pédagogie que ça va apporter pour les enfants, quoi qu'ils aient conscience quand même qu'il y a de la nature autour de nous. Je pense que l'importance de cette démarche, c'est le relais. C'est-à-dire qu'on leur fait prendre conscience qu'il y a de la nature quand ils vivent en ville, ils en ont autour d'eux, ils savent que ça existe, et qu'ils ne soient pas surpris que ça existe autre part. C'est plutôt de les amener aussi après à aller autre part. Il y a une étude japonaise qui vient de sortir sur le fait qu'en emmenant les enfants dans la forêt, on s'est rendu compte qu'ils allaient mieux. Ils dormaient mieux, au niveau de la psychologie, psychologiquement parlant, ils étaient beaucoup plus éveillés, juste en les emmenant une demi-heure par semaine, en forêt en fait.
Ouais.
Donc on ne va pas non plus remettre des forêts à Rouen, ou à Paris, ou dans les villes. On a déjà tout à l'extérieur, on ne va pas les tout détruire et puis se dire bon, voilà, on refait de la nature en ville et puis comme ça on n'a plus besoin d'aller à la campagne. Ça c'est vraiment dommage, quoi. Et ça je le ressens aussi de la part de certains urbains qui disent bon, il suffit de nous faire un parc et puis après comme ça on est tranquille. Mais non, la tranquillité on l'aura trouvée quand on sera tous ouverts les uns aux autres et puis que les ruraux iront en ville et inversement.
Que les deux mondes seront pleinement connectés et pas en défiance.
Ouais, c'est ça, voilà, totalement. Et du coup, le fait de mettre la nature en ville, c'est censé éveiller des consciences pour ramener les gens à un ailleurs, à autre chose, à leur donner envie de faire juste 10 bornes, d'arriver dans des forêts qu'il y a juste autour de chez nous.
Ouais. Alors j'ai ramené un petit objet, ça fait du bruit, ce sont des graines, quand on s'appelle le potagiste, donc on plante. Tu m'as fait visiter tout à l'heure le potager que tu as juste derrière. Et alors les graines, c'est un vrai sujet de discussion aujourd'hui. Est-ce qu'en 2050, les graines, elles seront libres ou elles seront la propriété uniquement de grandes firmes qui finalement maîtriseront ce que produit la terre? Ou est-ce que chacun pourra être maître, posséder ses graines, les échanger?
Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un grand sujet, effectivement les graines sont détenues majoritairement par des grandes firmes qui s'octroient les droits du vivant. Je pense qu'ils n'y arriveront pas à le faire à 100%, tout simplement parce qu'il y a déjà énormément de gens qui se battent pour. Au sein de l'association, on y est déjà très attaché, on n'achète que des graines qui viennent de petits producteurs, bio, on essaye de reproduire nos propres graines et puis d'inciter les gens à le faire. Mais bon, nous, on commence, et c'est très petit, c'est très, très humble. Hein. Mais il y a des gens qui se battent depuis déjà des années et qui ont recréé des conservatoires entiers. Et là, je pense que ces conservatoires vont persister. À part si un jour, on a un vrai coup d'État qui fait qu'il y a une loi qui nous interdit même de les ressemer, auquel cas, c'est incroyable. Mais jusqu'ici, il y a des gens qui se battent pour que ça continue.
Donc en 2050...
En 2050, je pense qu'il y aura encore des gens, soit qui se battront, soit que le combat aura été gagné, et du coup, on aura tous nos graines. Peut-être que ce fameux objet, ces graines, tout le monde aura un tiroir à graines chez soi. Tous ces fameux éco-quartiers à la campagne, on aura peut-être ça, justement, en partage. On aura le Wi-Fi et la granothèque, quoi.
Voilà.
c'est peut-être ça à l'avenir, en fait. Voilà.
Alors, pour terminer cet entretien, Louis, j'aimerais que tu formules un vœu pour cet horizon 2050.
Oui. C'est pas facile.
Surtout qu'il n'y en a qu'un.
Oui, c'est ça.
On
va
faire trois vœux. Là,
parce qu'il y a plein de vœux que j'aimerais faire. Non, vraiment, cette connexion, il faut vraiment retrouver une réelle connexion entre surtout les gens. plus que les milieux ruraux urbains, c'est une connexion entre les gens qui habitent la ville, ceux qui habitent la campagne. Il y a vraiment des choses à faire entre même, on a souvent cette caricature des Parisiens et puis des gens de la province, ouais. Mais ça existe quand même vraiment. On a tous notre côté anti-parisien quand on habite la
province. Ailleurs qu'à Paris.
Voilà, c'est ça. Et les Parisiens, on a quand même souvent des réflexions, chez vous, cette personne aussi. Ben oui, on n'est pas, on habite en France aussi. En fait, c'est marrant. Donc que ce soit à Paris, Rouen, Grenoble, Lyon, Marseille, je ne sais pas. Il faut vraiment que les villes se réintéressent au maximum à ce qu'il y a autour de chez elles. Et inversement, que les gens qui habitent dans la campagne et qui ne sont pas forcément très adeptes de la ville essayent d'y trouver le bien qu'il y a. Notamment actuellement, et ben, on a ça, on a les éco-quartiers, on a des marchés, on a encore des marchés qui vivent vraiment. Alors dans les campagnes, ils disparaissent un à un. On a des boulangeries qui fonctionnent, on a des boucheries. Fin... Donc à la ville, on a réussi, ou alors on réussit actuellement à remettre en place des choses qui me paraissent assez intelligentes. Le contact entre les gens, des petits commerces, etc., qui ont disparu à la campagne. Mmh. Donc, à la campagne, on ne peut pas donner trop de leçons à la ville, je pense. On a beaucoup à apprendre. Et en même temps, à la ville, il faut absolument qu'on prenne conscience de l'importance que joue la campagne, en fait, la ruralité autour de nous.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Louis.
Merci.
Pour ce regard projeté vers 2050. Cet épisode de Hashtag 2050, le podcast s'achève. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle rencontre. Et d'ici là, soyons toujours curieux.